En puisant dans le fonds d'archives régionales d'images vidéo de l'agence cyclique Centre Val de Loire, la mission Val de Loire nous propose la série de films Plaisir de Loire, une plongée ludique dans un passé pas si lointain. On évoque cette série avec Vianney Barbin de la mission Val de Loire et Rémi Payou de l'agence cyclique.
Vianney, est-ce que tu peux un peu nous parler de ce projet, comment c'est né ?
Ce projet, il est né de plusieurs réflexions au sein de la mission Val de Loire. Il est né d'un partenariat avec l'agence cyclique. En fait, depuis quelques années, la mission réfléchit à essayer de repenser un peu certains de ses outils de médiation à travers des productions vidéo qu'on a commencé à faire depuis 2018-2019. En parallèle de ça, donc, on fêtait cette année les 20 ans de l'inscription du Val-de-Loire. Et dans le cadre de ces 20 ans, on réfléchissait à un partenariat avec l'agence cyclique qui possède un fonds d'images d'archives extrêmement intéressant, d'ailleurs qu'on avait déjà pu exploiter, je crois, en 2010 pour les 10 ans de l'inscription. Dans nos réflexions, l'idée a été de repartir d'une exposition qui existe déjà, qui s'appelle Plaisir de Loire, mais sur une période assez longue, du début du 19e jusqu'aux années 1970 de mémoire. Et du coup, là, de travailler sur une période plus courte sur laquelle on pourrait utiliser les images d'archives de Cyclique et reprendre ces contenus historiques qui présentent les loisirs en Loire sur des thèmes assez variés que sont la pêche, la navigation, les différents états qu'on peut observer de la Loire, la baignade notamment.
Donc tout ça avec le fonds d'archives de chez Cyclique. Comment on se plonge dans ce fonds d'archives qui est colossal ? Tu peux nous présenter ce fonds d'archives, Rémi ?
Effectivement, on peut le dire, le mot est assez juste, assez colossal. Un fonds qui s'est créé à partir de 2006 avec la mise en place d'une mission de service public et la création du pôle patrimoine à Cyclique Centre Val de Loire. Pôle patrimoine qui est situé à Issoudun et qui a pour mission donc la collecte, la conservation, la documentation et la valorisation des films amateurs tournés en région centre, on veut dire des années 20, avec la naissance du 9,5 mm dans les années 1922, jusqu'à de nos jours, on pourrait dire, puisqu'on a des fonds qui sont datés des années 2000, mais bien entendu qui sont sur d'autres supports. On parle ici de supports vidéo, de la Betacam à la VHS par exemple. Et aujourd'hui, bien entendu, se pose la question des fonds sur fichiers numériques.
Qu'est-ce qu'on fait du numérique et de l'explosion de la vidéo? Oui. Puisque depuis les années 2010, ça a été multiplié par combien la vidéo amateur?
Je pense que c'est pas chiffrable, mais effectivement, on est de l'ordre d'un traitement qui pourrait être quotidien, d'un traitement de flux. Plus que ce qu'aujourd'hui aussi, la volonté, c'est plus de créer une collection. Donc c'est vrai que c'est des questions qui se posent et c'est des questions qui seront mises en avant sur les années à venir en tout cas. Le fonds est colossal. Aujourd'hui, on a environ 23 000 supports dans notre centre d'archives avec environ 13 000 films qui ont été numérisés, documentés, qui sont accessibles sur une plateforme qui s'appelle mémoire.cyclique.fr. Et de là, en fait, de cette plateforme, les partenaires, dont la mission, peuvent consulter ces fonds, les sélectionner et nous en faire une demande pour après que nous, on puisse les mettre à disposition sous format de fichier HD et donc qui est tout à fait diffusable sur les réseaux sociaux, mais aussi sur grand écran.
Cette plateforme, est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? Est-ce qu'on peut s'amuser sur Internet, aller regarder, chercher des images?
Oui, effectivement, elle est accessible à tout le monde, gratuitement. Il n'y a pas de coupure publicitaire. C'est un support, encore un outil du service public. On a environ 12 500 fonds que l'on peut visionner, revisionner, commenter. Et d'ailleurs, on peut aussi répondre à une sorte de faire de la documentation participative parce que parfois, nous, on manque d'informations et les personnes qui vont visionner les fonds nous ramènent des informations essentielles pour compléter les fonds puisque nous sommes avant tout un lieu de conservation et de valorisation, mais on manque parfois de temps pour aller au fond des choses parce qu'un film, quand il rentre chez nous, il a un temps de traitement de 2 ans et donc une année au niveau de l'attente au niveau de la documentation aussi, parce qu'il y a énormément de fonds. On rentre environ 500 supports à l'année, ce qui est énorme, puisque tous les ans, c'est toujours la même chose. On rentre 500 fonds, puis 500 fonds, donc on a l'impression qu'il y a une corne d'abondance qui s'arrêtera sûrement un jour, mais pour le moment, en tout cas, il y a énormément de possibilités. Pour en revenir au site, il a été ouvert en 2010 et il a pour vocation d'évoluer l'année prochaine avec une porte d'entrée qui sera sur la création et justement l'aboutissement d'un peu de tout ce que l'on fait avec tous les partenariats extérieurs qui permettra aux personnes de sélectionner des morceaux d'images d'archives, des bouts, pour en faire des montages par la suite sous couvert d'une convention de partenariat, etc. Mais en tout cas de donner un peu plus de liberté et de donner à faire avec ces anciennes archives pour construire les récits du futur et présent.
Et du coup, pour compléter ce que dit Rémi, en effet, nous, en 2019, on a commencé à consulter le fonds qui est accessible depuis le site Mémoire. On a relevé un certain nombre de films qui nous semblaient vraiment très pertinents. Alors en plus, on a un petit peu de chance avec l'agence Cyclique, c'est que donc ils travaillent sur toute la région centre, mais il y a une petite partie du Maine-et-Loire qui fait aussi partie du fonds. Et donc comme le bien nous couvre également une partie du Maine-et-Loire, on a eu la chance de trouver à peu près tout ce qu'on souhaitait sur le territoire inscrit chez Cyclique. De là, on est parti donc sur une base, je ne sais plus, on avait peut-être une petite centaine de films comme ça, avec des thèmes ou des plans. Parfois, c'était juste un plan qui pouvait nous séduire ou nous intéresser. Et puis, on a ensuite contacté Cyclique en disant, voilà, il y a un fond, c'est sûr, qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et ensuite, au fur et à mesure de nos discussions, on a vu que, d'une part, on pouvait obtenir les films d'une qualité bien meilleure que celle qu'on peut avoir sur le site. Et puis, en fait, il y en a encore d'autres qui ne sont pas forcément accessibles sur le site. Et donc tout ça nous a construit, je ne sais pas combien d'heures de films, je ne sais plus à combien on est là, parce qu'au fur et à mesure, de temps en temps, on en demande encore un peu plus, suivant les sujets, suivant les...
Il y a de quoi s'y perdre.
Complètement, complètement. Nous, on a la chance de s'être restreint à 6 thèmes sur le travail autour de Plaisir de Loire. On pourrait y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Comment vous l'agencez, cette mémoire chez Cyclique ? Tout n'a pas la même valeur dans toutes ces images.
Effectivement, tout n'a pas la même valeur, mais on part du principe que tout fond mérite d'être visionné et d'être conservé. Après, effectivement, il y a la différence entre la conservation et la valorisation. Ça, après, c'est une démarche scientifique qui nous permet de dire que si tel fond a le mérite d'être mis en lumière. Et après, il y a la dimension de la répétition, puisque effectivement, on traite un fond qui est un peu particulier, c'est du fond du cinéma amateur, et beaucoup de cinéastes amateurs ont filmé et refilmé les mêmes choses, puisque c'est des événements principalement familiaux, et des événements de ville et village. On parle ici de fêtes, de communion, de mariage, de repas, de pique-nique au bord de Loire. Mais c'est aussi au-delà de ça, et Vianney en a un peu parlé, puisque le cinéaste amateur ne s'arrête pas à sa vie quotidienne, il filme aussi l'événementiel, les événements sportifs. Il va filmer aussi tout ce qui se passe, je pense notamment à la chute du pont sur Tours, aux événements politiques, la venue d'un général de Gaulle, d'un maréchal Pétain. Il y a toute une typologie d'images qui nous permet d'ores et déjà de pouvoir les classer, et après nous, d'en faire une documentation. Et de cette documentation, on va définir un peu les grands axes, puisque c'est une documentation qui se veut descriptive et qui nous permet après de donner à voir les fonds. Et ces fonds-là, en fait, sont avant tout classés au niveau de la localité de l'événement et de la date. Et en fait, on ne va pas avoir un sous-classement. C'est les personnes qui souhaitent visionner les fonds qui eux-mêmes vont fouiner, chercher. C'est un peu de l'archéologie contemporaine. On s'amuse à construire du récit, à donner du sens, un nouveau sens en fait à ces images qui elles-mêmes en ont un. Alors, on construit une histoire à partir des histoires. Et c'est ce que Plaisir de Loire fait en fait. Quand on traite un thème navigué, par exemple, on va prendre des fonds et de ces fonds, on va construire un récit par le montage, par les petites incrustations, mais aussi un récit qui lui-même avait déjà été raconté, et c'est ça qui est un peu... c'est un puissant fond, en fait. On peut s'y perdre, mais c'est un support qui est magique, puisqu'on peut tout faire avec l'image d'archive, et aujourd'hui, on s'en rend compte avec la qualité de l'image dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on est passé de l'ASD à la HD, et même les grosses boîtes de production utilisent l'image d'archive pour compléter leurs films documentaires. C'est un grand bénéfice pour l'image d'archives qui aujourd'hui ressort un peu et est sous la lumière.
Il y a ce qu'on attend de voir quand on imagine les souvenirs et se plonger dans les images d'archives. On s'attend à voir certaines choses, mais est-ce que vous avez eu aussi des surprises ?
C'était pas une surprise, mais pour en avoir discuté avec donc mes deux collègues avec qui je travaille, donc Imola Gebauer et puis Rémi Delplanque qui lui était à l'origine de l'exposition sur Plaisir de Loire. Il y a un phénomène assez intéressant, c'est que notamment au début des années 30, là où on commence à avoir ces images de films amateurs, on est sur une classe sociale assez aisée, voire très aisée. Et au fur et à mesure des années, quand on arrive dans les années 70-80, on sent que l'image amateur se démocratise davantage. Et donc on a d'autres types d'images. Ça, c'était intéressant. Mais il faut en avoir conscience du coup quand on construit un discours, parce que c'est un discours d'une classe sociale. Enfin, ce sont des images d'une classe sociale particulière qui ne représentent pas forcément la vie de tous.
Peut-être pour compléter, c'est aussi, on est étonné de la qualité parfois. Quand on parle de cinéma amateur, on a tendance à se dire ça va bouger, la caméra va beaucoup bouger, le sujet va mal être traité.
On a tous en tête les images de Tonton avec son caméscope qui part en vacances. Mais...
Exactement, exactement. Il y en a forcément, ça fait partie des films amateurs, mais parfois on a des couchers de soleil, on a vraiment des moments d'émerveillement face à l'image et face à ce que l'on peut y voir. Et donc je pense que c'est en salle ce qui peut nous étonner. C'est vraiment l'étonnement par la qualité qui parfois est assez oubliée et parfois oubliable, mais parfois elle nous surprend.
Je me rappelais une petite anecdote où j'ai montré la première vidéo aboutie à mon épouse et qui m'a dit « Ah mais ça va trop vite, j'aimerais bien juste pouvoir me poser un peu sur chaque image ». Et il y avait en fait ce plaisir de découvrir le quotidien d'une époque un peu révolue, sans forcément aller dans le « c'était mieux avant », mais juste ce plaisir de se plonger dans une époque qui n'existe plus, sur les tenues vestimentaires, la manière de bouger, comment on partait en bord de Loire, à quoi ressemblaient les bords de Loire il y a 80, 100 ans, etc. Juste ça, déjà, c'était déjà un grand plaisir de découvrir ce sujet-là de cette façon-là.
Aujourd'hui, c'est encore plus démocratisé, finalement, l'image vidéo, puisque un simple téléphone fait de la vidéo. Comment ça va se traiter, toute cette mémoire numérique ?
Il y a deux aspects qui se séparent. Il y a effectivement tout l'aspect des fonds amateurs et l'aspect des fonds, ce qu'on appelle du dépôt légal. Donc effectivement, tout ce qui est dépôt légal, chaîne de télévision, radio, internet, c'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui s'en charge. Après, la construction du cinéma amateur via les outils numériques d'aujourd'hui, smartphones, appareils photo, télévision locale aussi, c'est une grande question qui se pose, qui n'est pas traitée à l'échelle des archives locales ou de l'agence cyclique à ce jour, qui est en discussion, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est important. Je tiens à dire ici quand même que quand on a le début du traitement du film amateur débute dans les années 80 avec la Cinémathèque de Bretagne qui lance le traitement des fonds amateurs en 86, il me semble. Donc il y a eu du temps qui s'est passé entre le fait de faire le film et le fait de le conserver. Je pense, et c'est en tout cas un point de vue et une idée à défendre, qu'il faut du temps aussi pour que certaines images numériques se perdent et que d'autres restent. Et que ces images qui vont rester soient analysées par les archivistes pour après avoir une forme de conservation et en faire une sélection scientifique, comme on l'a fait avec le format pellicule et comme on le fait avec le format vidéo. Il y a des fonds qui vont partir, c'est indéniable. Et on a souvent ces discussions avec mes collègues au Pôle Patrimoine, et on a souvent cette idée aussi qui revient de se dire que, j'évoquais les télévisions locales, on pense qu'elles font partie des archives d'aujourd'hui, puisqu'elles filment le quotidien, elles filment l'événement culturel, elles filment l'ouverture d'une boulangerie. Et tout ça, mis bout à bout, ça nous permet d'entrevoir ce que l'on va conserver par la suite. Effectivement, aujourd'hui, on est tous cinéastes amateurs. Par contre, on ne fait pas tous du cinéma, donc il y a vraiment une différence entre la typologie des actions de filmer a tellement évolué. Quand on voit Instagram, quand on voit TikTok, quand on voit, bon, on parlait de Facebook tout à l'heure, YouTube, je pense qu'il y a toutes ces choses, c'est gargantuesque et ça va au-delà de nos propres missions aujourd'hui qui sont plus de la conservation de support. Et le fichier numérique est un format, on peut parler de support, mais tellement mouvant qu'aujourd'hui, il y a la question de savoir comment conserver le format et la pérennité du format. Quand on garde une archive sous forme pellicule, c'est 140 ans minimum aujourd'hui. Ça fait 140 ans à peu près. Un fichier numérique qui sort d'un smartphone, c'est une dizaine d'années. Donc après, tout se pose la question de la récupération, de la sauvegarde, de la reproduction de la sauvegarde, etc., etc.
Comment se passent les droits d'image et d'auteur sur ces films amateurs ?
À partir du moment où le dépôt est fait à Cyclique, Cyclique est ayant droit des fonds, en tout cas du fonds numérique. Le réalisateur ou la personne qui nous a fait le dépôt reste propriétaire de la bobine, du support. Donc il peut récupérer à tout moment le support. Il y a un conseil qui est fait à la personne, puisque nous on a des locaux qui ont une conservation optimum, qui nous permet d'avoir un taux d'humidité et une température assez stable pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'évolution sur le support. Mais à partir du moment où nous, on a numérisé le film, on devient propriétaire de la copie numérique, ce qui nous permet, sauf cas exceptionnel, d'en faire ce que l'on veut, ou en tout cas d'être garant de ce fonds. Effectivement, on ne fait pas ce que l'on veut avec l'image. on va avoir des discussions. On en a eu d'ailleurs pour les plaisirs de Loire, avec effectivement l'incrustation de petites couleurs, le fait d'accélérer, de ralentir. C'est des choses qu'aujourd'hui on met en avant parce que ça fait partie de nos façons de faire, de nos façons de consommer l'image, ce qu'on n'aurait pas fait peut-être il y a 20 ans. Donc c'est aussi des questions qui évoluent. On reste quand même garante de l'image, donc des fois on peut tirer la sonnette d'alarme et dire « Ah, il faudrait peut-être ne pas faire ça ou le faire autrement ». Mais dans tous les cas, on privilégie la construction d'un récit, la construction graphique et l'aspect artistique qui est très importante aujourd'hui parce que ça permet de donner à voir à d'autres publics, autres que ceux qui sont déjà férus de l'archive ou qui font des recherches à travers de l'archive.
Et alors pour l'instant, nous, on n'a pas eu de rappel à l'ordre de la part du Cyclic, donc je pense qu'on est encore dans les clous. Et ce que dit Rémi, c'est exactement ce que l'on fait avec ces vidéos à partir d'un contenu, une exposition en format texte, image que l'on prête. On reprend ce contenu-là sous une forme plus actuelle, plus moderne, peut-être qui pourra toucher un public qu'on espère un peu plus jeune. On a un travail au sein de la mission autour du rajeunissement de notre public, notamment dans le cadre des 20 ans. Et donc avec des codes de communication, de médiation qu'ils partagent tous, quoi.
Bon allez, on arrête avec cette page mémoire. Le vrai sujet de Plaisir de Loire, c'est aussi la Loire, évidemment. Et moi, je m'intéresse toujours aux invités qui sont autour de cette table, de savoir un petit peu leur rapport à la Loire. Alors messieurs, quel est votre rapport à la Loire, Vianney, pour commencer?
J'ai vécu en bord de Loire sans vraiment m'en rendre compte. Quand j'étais plus jeune, de mes 8 ans à 13-14, 12-13, on habitait à Amboise. La Loire ne faisait pas du tout partie de... mon périmètre d'intérêt à cette époque-là. On est revenu quelques années plus tard, sur le coup de mes 18 ans, 17-18 ans, vivre à Blois. Et là, j'étais en terminale, puis ensuite, je suis parti faire mes études. À nouveau, la Loire n'était pas du tout un centre d'intérêt particulier, si ce n'est que je me souviens qu'on a fait une petite descente en radeau avec des copains. Donc mon rapport à la Loire, en fait, il s'est clairement construit avec mon arrivée, quand je suis arrivé à la mission Val-de-Loire, où mon regard vraiment a changé à la fois sur le fleuve et puis sur le paysage. Il y a une éducation, il y a des connaissances qui se construisent sur des sujets de travail, avec les échanges avec les collègues, etc. Et donc le regard s'affine sur ce territoire que j'apprends encore à découvrir et que je trouve de plus en plus merveilleux.
Pour toi, Rémi, la Loire et le Val de Loire, ça représente quoi ?
C'est une relation assez récente, puisque je me confie aujourd'hui, je suis charentais. Okay. Donc effectivement, la Loire ne faisait pas partie de mon périmètre d'intérêt et géographique à l'époque. Je me suis rapproché progressivement, c'est entre 2015 et 2016 que je suis arrivé sur Tours. J'ai appris à connaître effectivement la Loire, son environnement, et par la suite à le pratiquer aussi, tout simplement, puisque ça traverse le territoire, à la fois la géographie et à la fois ce que l'on peut y faire, naviguer. On parlait de naviguer tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de déguster un verre au bord de Loire, de voir un film, d'écouter de la musique. Donc c'est un centre d'activité qui s'y fait. C'est très intéressant et très agréable. Par contre, je tiens à souligner que j'ai toujours eu une relation avec la navigation, avec l'eau. Donc pour moi, c'est assez naturel aujourd'hui de travailler. Je suis très content que nos images soient aussi valorisées dans ce cadre, puisque moi, j'ai toujours navigué. Je suis kayakiste depuis assez jeune. Aujourd'hui, un peu moins à cause du travail, mais comme tout le monde, on a des activités qui se réduisent. Mais en tout cas, c'est un territoire que j'ai appris à connaître au fil des années et que je souhaite approfondir, puisque je pense qu'il y a vraiment, c'était une discussion tout à l'heure qu'on avait aussi, il y a vraiment un futur aussi autour de la Loire, la relation homme, animal, faune, flore, voilà, donc il y a toutes ces questions et je pense que ce soit les archives ou que ce soit nos actions ont des choses à prouver et à donner sur ce territoire qui est en perpétuelle évolution.
Être plongé dans les archives, ça aide aussi à avoir une vision du futur.
Complètement. C'est assez affolant de voir comment nos images du passé répondent à notre présent et à notre futur très proche. Avant de travailler dans les archives, j'ai fait des études d'histoire et on apprend souvent que l'histoire est assez cyclique. C'est pas pour faire un jeu de mots avec l'agence, mais c'est vraiment le cas. On a des faits qui se renouvellent. Ça peut être des faits à l'année, mais aussi sur des périodes plus longues, des dizaines d'années, des centaines d'années. Et on le voit aujourd'hui avec la situation sanitaire qui se répète, avec d'autres maladies qui étaient là avant, d'autres comportements humains qui se sont faits par le passé aussi. Bon, on s'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, c'est vraiment l'archive est vraiment un, voilà, un miroir. Quotidiennement, on se regarde à la fois et on admire le paysage et on a parfois peur de retrouver ce qu'on a vu précédemment. Je parlais des cinéastes amateurs qui ont filmé le maréchal Pétain. Et c'est peut-être tout bête, mais un homme qui traverse la rue en saluant le public l'applaudissant, parfois on a des frissons, mais on comprend aussi la situation. Il y avait une situation historique et cette situation historique se comprend. Et peut-être qu'un jour, on pourra revivre. Et je ne l'espère pas, mais c'est des situations qui peuvent revenir. Et l'archive nous dit, OK, ça c'est fait. Est-ce qu'on tourne la page ou est-ce qu'on replonge parfois dans ces méandres un peu sombres ?
Bon, pour ne pas finir sur un air aussi grave, dans les choses qui peuvent revenir aussi, on peut peut-être s'arrêter juste à la baignade en Loire, par exemple. Peut-être qu'un jour, on pourra se rebaigner dans la Loire.
Alors là, il va y avoir... une langue de bois qui va se mettre en place. La question de la baignade, c'était, je pensais à ça au fur et à mesure de ta prise de parole, Rémi, parce que, alors, en effet, sur un sujet beaucoup plus léger, on retrouve un peu ce rapport passé-présent. Donc, dans le passé, la Loire a été largement utilisée pour la baignade, jusqu'à un certain moment. Milieu des années 70, début des années 80, on a eu des arrêtés d'interdiction de baignade pour diverses raisons, notamment pour des questions de pollution, pour des questions de dangerosité parce qu'il y avait des noyades. La Loire actuellement est toujours interdite à la baignade. Malgré tout, les usages font qu'il y a une forme de tolérance, d'acceptation, malgré les dangers que ça peut représenter. Et donc, hier encore, on en discutait avec Rémi et Imola. Comment on termine ce sujet sur se baigner ? Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'institution publique, faire la promotion de la baignade. Cependant, ça a été une réalité. Et c'est un plaisir que beaucoup de nos contemporains voudraient retrouver. Donc, dans quel cadre on peut retrouver la baignade en Loire ? J'ai pas la réponse et je suis pas sûr que ce soit à la mission Val-de-Loire de répondre à ça. Mais en tout cas, de retracer cette chronologie des loisirs, notamment à travers la baignade, et puis de poser la question de comment ça se passe maintenant, c'est toujours très enrichissant.
Il est l'heure d'arriver au mot de la fin, et ces mots de la fin, je vous les donne à vous. Je vous donne trois mots pour me parler du Val-de-Loire à chacun.
Alors, j'en ai un qui me vient immédiatement en tête, c'est l'eau, pour tout ce que ça représente, qu'elle soit abondante ou qu'elle nous manque, parce que l'eau, c'est la vie. Le deuxième, j'ai une espèce de phénomène de rassemblement ou d'attraction, en fait, cette eau, par rapport au Val-de-Loire, qui se construit à travers ou autour de son fleuve, cette puissance d'attraction de l'eau, qu'on vienne pour la contempler, qu'on vienne, comme tu disais, pour y passer un moment entre amis, pour boire un verre, etc. Le fait d'être à côté de l'eau, c'est quelque chose qui attire énormément. Un troisième, c'est le mouvement. Voir cette eau se couler comme ça, il y a quelque chose d'assez apaisant. Et pour avoir discuté avec un marinier de Loire récemment sur cette sensation-là, lui me disait, j'ai la sensation parfois quand je me retrouve sur le bateau d'être connecté à l'océan. Donc ce mouvement-là qui nous emmène vers l'océan, je trouve que c'est assez juste, même si on n'a pas toujours l'impression de le ressentir. Je trouve que c'est assez juste.
Alors trois mots, je dirais histoire pour commencer, parce que voilà, c'est un élément qui s'affiche aujourd'hui, qui sera là sûrement demain, en espérant que tout se passe bien et qui était là bien avant nous. Le deuxième mot, je dirais un peu comme Vianney, on parlait de rassemblement, je dirais collectif, parce qu'effectivement, on le vit collectivement, sans le voir forcément. Mais là, je vois par exemple des cyclistes qui passent par-dessus la Loire sur un pont, et on vit à la fois la géographie du fleuve, mais on vit aussi sa façon de vivre, avec les intempéries, les débordements, etc. Donc c'est un élément qui se vit collectivement. Et le troisième mot que j'aime à citer, c'est récit, le récit, parce qu'effectivement, il y a cette vie qui nous impacte parfois, et donc la Loire nous amène un récit, et là on le voit puisqu'on fête les 20 ans, on a fêté les 10 ans, donc on a des histoires à raconter autour de ce fleuve, et je trouve que c'est un mot qui colle bien, et comme le disait Vianney, à cette sensation aussi d'être happé par l'eau et d'être une volonté d'aller plus loin, quoi, et de voguer. Et donc c'est assez poétique, je trouve, comme élément.
Eh bien messieurs, merci beaucoup. Et puis on invite tous les spectateurs et auditeurs, évidemment, à se plonger dans ces plaisirs de Loire. Et puis pourquoi pas aller encore plus loin sur la plateforme de Cyclique.
Merci.
Merci.